éditions Zoner présentent « Vous allez les déranger », un recueil de nouvelles de Gilles Bertin Moncharmont, lu par Serge Cazeneuve. La part manquante, extrait.
« Ils ont tué vos bêtes !»
articule la femme avec son accent terreux depuis le fond de l'autocar, remué par les bourrasques. Elle demeure immobile, lourde, échouée au centre de la dernière rangée de sièges bleu pétrole, sa tête sans cou, coincée entre sa mise en pli et sa gabardine qu'elle garde depuis le matin. Ils sont seuls dans le véhicule. La pluie trace des pointillés argentés sur les vitres. Les voyants verts et rouges du tableau de bord luisent en bas du pare-brise. Stéphane évite à dessein de lever les yeux vers le rétroviseur. Il devine fixé sur lui le regard de la femme. Quand la voix pointue de Francis Cabrel émerge de la radio, il monte le volume puis s'enfonce dans son siège de conduite ergonomique, les yeux perdus dans le fond ardoisé moucheté de points d'écume du pare-brise. De longues zébrures parallèles y dégoulinent à des régimes différents, avec au milieu de tout ce glissement des gouttes immobiles, rondes, comme des galets dont soudain l'une se détache et dévale la vitre. Comité d'entreprise, club, amical, cette fois-ci les troisième âge en pèlerinage à Compostelle. Toujours le même scénario, on l'appelle d'abord par son nom, le deuxième jour il devient Stéphane, puis on l'invite à la table du soir, et il a droit à des assortiments de fromage, des planches à découper garnies de saucissons et emballées dans des plastiques craquants, des ballotins de chocolat, de bonbons, de dragées, des pots de miel, des alcools sirupeux, dans des bouteilles bleues ou rouges, des cartons de vin qui s'ajoutent à ceux offerts par les propriétaires des caves où il arrête l'autocar. Tous ses passagers veulent être ses amis et tous désirent ardemment en retour qu'il soit le leur. Cette femme qui le regarde fixement dans le rétroviseur s'appelle Colette Mercier. Il la connaît. Il l'a repérée au sein de la petite armée de seigneurs chenus et de leurs valises à roulettes qui attendaient le bus à la gare routière, avant même qu'elle grimpe à grand-peine par l'escalier étroit. Il a détourné la tête, espérant qu'elle ne le remette pas. Les années ont passé, il a changé physiquement. S'est décharné, le visage dévoré de barbe. Elle-même est encore plus impotente, son handicap l'occupe entièrement dès qu'elle se déplace. « Vous êtes le combasseau ?» Les paroles de Colette Mercier ont traversé le bruit de sable que la pluie produit sur la carrosserie. Stéphane est obligé de se retourner et demi-pivoter sur son siège, torse penché dans la travée, il soutient son regard. Vous êtes le fils Combasseau, le fils du Jean. Je me souviens bien de votre prénom, Stéphane. Non, répond-il articulant pour que sa voix porte au fond. Vous devez confondre. Elle remue la mâchoire pendant un moment et finit par sortir. Si, c'est vous. Vous devez confondre, madame, dit-il en adoucissant le plus possible sa voix. Vous êtes parti et maintenant vous conduisez des cars, c'est vous. « Je m'appelle Stéphane, c'est vrai, mais pas Combasseau. Moulin, invente-t-il. Stéphane Moulin. Ils ont tué vos bêtes !» Main sur son accoudoir, bras en équerre comme s'il allait se lever, il demeure dans la même attitude, tourné vers elle, silencieux. Les yeux de Colette Mercier ne sillent pas. Une publicité vient de passer et maintenant la radio joue « So Far Away ». Stéphane aimerait l'écouter en paix. Rêvassé à des aéroports dans le désert, au Golden Gate et au Star d'Hollywood, à la tête que doit avoir le Pacifique. Mais un liquide astringent dégringole en lui, du détergent à l'état pur, sa gorge est bloquée, son estomac serré, ligoté par des sandos. « Après, continue-t-elle, vous êtes allé dans les autocars ? Vous me confondez avec quelqu'un d'autre, répond-il. Se forçant à conserver un ton aimable, mais son visage est devenu caoutchouteux. « On vous a jamais revu, disparu. Mon fils, il parle encore de vous des fois. Il vous a pas oublié ? Ah ça non !» L'image de Philippe Mercier lui revient. Le vétérinaire descend de sa voiture. Dans sa sempiternelle veste en daim, traverse la cour de la ferme, monte les escaliers vers lui qui l'attend en haut du perron. Stéphane sait ce que Mercier va lui annoncer, et Mercier que Stéphane le sait. Ils en sont malades, littéralement malades, dans leur âme et dans leur corps. Ils accomplissent alors chacun l'un des actes les plus éprouvants de leur existence. Mercier devine que Stéphane ne nourrit aucune illusion. Chacun doit accomplir sa part, le vétérinaire parler et le paysan l'écouter. Ce n'est pas de la poignée de main qu'il se donne, dont se souvient Stéphane maintenant, mais du vide dans son ventre, le même qui est de retour aujourd'hui. La voix de Colette Mercier se mêle à la chanson de Nicolas Perrac et aux cymbales de la pluie sur le toit du bus. Une douleur fulgurante traverse sa mâchoire, zèbre sa joue jusqu'à son front. « Vieille conne !» Il se radoucit. Elle est demeurée quelque part du côté de cette saleté. Son fils, le vétérinaire, aussi. Tout le monde y a laissé une part de soi, mais lui seul a vraiment trinqué. À tâtons, il enfile ses bras dans les manches de son blouson derrière lui, retire la clé de contact, déclenche l'ouverture de la porte et, une fois dehors, la verrouille à l'aide de la commande extérieure. Il lève la tête vers la tour Eiffel. Sa pointe est invisible dans la pluie qui lui gifle le visage. Le groupe en a pour une bonne heure. L'ascenseur, la plateforme du deuxième étage en dépit de cette visibilité nulle, les explications d'Émilie et les boutiques de souvenirs. Obligatoire, les boutiques de souvenirs. Il allume une cigarette. À l'intérieur, Colette Mercier continue de soliloquer. Il remonte le flanc du bus décoré d'un pélican sur fond bleu, longe les arbres du square au pied de la tour Eiffel, le bâtiment bas du centre d'information et de la jeunesse, l'ambassade d'Australie, la façade courbe et vitrée de la maison de la culture du Japon. À proximité de la station de métro Birakeim, il est témoin d'un accident. Une voiture heurte un homme. Les véhicules arrivent tels des fusées aux trajectoires erratiques. Lui-même voudrait traverser depuis un moment, mais n'y parvient pas. La circulation se fige. Un attroupement se forme. Pour une raison incompréhensible, plusieurs hommes se mettent à savater un type agenouillé près de l'accidenté. Puis ils le redressent. Et un petit gabarit musclé et un père bistre et longs cheveux noirs lui jambonnent la tête d'une série de beignes. Stéphane se détourne et rejoint le parapet au-dessus de la Seine. Il s'engage dans l'escalier des berges. Sur le mur du quai, quelqu'un attagué, comme pour illustrer la scène à laquelle il vient d'assister. Ici, c'est Paris. Les lumières des bateaux-mouches et des péniches-restaurants mouillent l'eau du fleuve. Elle est de la même teinte que l'impair du petit con là-haut qui s'acharnait sur l'accidenté. Il sort de sa poche un chocolat qu'un passager lui a offert. Derrière le goût onctueux, un voile de graisse se solidifie sur la voûte de son palais. Un goût d'animal mort. Il recrache le chocolat. Ses bêtes avaient des yeux d'eau, toujours mouillés. Leur regard était familier et impénétrable, comme ce fleuve. Il marche sur les pavés inégaux de la berge, jusqu'à ce que son téléphone sonne. En courant pour rejoindre l'autocar, ses cheveux trempés lui fouettent la nuque. Ses 53 passagers sont groupés comme un troupeau de brebis sous des parapluies goûtants devant la porte. Émilie, leur accompagnatrice, une jeune femme sans expérience, recrutée par l'agence qui affrète le bus, se détache de l'amas. « Que se passe-t-il, Stéphane ?»« Rien, » répond-il, fouillant la poche de son blouson. « Rien ? Vous avez laissé Madame Mercier toute seule. » Il jette un coup d'œil à l'intérieur. Elle est toujours au fond, au milieu de la dernière rangée, dans l'unique siège qui lui permette d'étaler ses jambes variqueuses à son aise. Ses lèvres marmonnent le récit commencé tout à l'heure avant qu'il sorte. « Notre responsabilité est engagée, » lui explique Émilie, l'englobant dans ce « notre » pendant qu'il déverrouille la porte. Il le sait, c'est son métier. S'il a abandonné Colette Mercier, c'est parce qu'il ne supporte plus qu'on lui rappelle son passé. Il se referme dès que quelqu'un cherche à le priver de l'oubli. C'est toujours par compassion, cette pitié poisseuse. Ils ont été nombreux à essayer ces dernières années. Dos tourné, il attend que les passagers montent. Cela dure. Ils se meuvent lentement, chacun a quelque chose à secouer, à taper, un parapluie, un coupe-vent, des chaussures. Pendant tout ce temps, ils gardent les yeux fixés sur l'obélisque acéré de la tour Eiffel. Les jours précédant le verdict de la commission sanitaire, Stéphane avait essayé de se préparer à l'annonce du vétérinaire. Pourtant, quand sur le perron de la ferme, Mercier explique la décision des experts, un précipice s'ouvre en lui, une béance dont il n'avait pas soupçonné l'existence. Sur le coup, il n'en a pas peur. Pendant que Philippe Mercier parle, il considère ce vide avec calme, sans vaciller ni trébucher. Le discours est bref, quelques phrases courtes, asséchées d'avoir été préparées, soupesées. Le vétérinaire se tait. Il demeure sur le palier, muet, dans un grand silence qui s'est fait autour d'eux. Le troupeau sera abattu, cela est dit. Désormais, encéphalopathie spongiforme bovine. Philippe Mercier redescend les marches et se dirige vers sa voiture. Sa main cherche l'ouverture de la poche de sa veste pour prendre son trousseau de clés. En vain, elle tremble trop. Après avoir conduit ses passagers à leur hôtel, Stéphane dîne seul dans une pizzeria, refusant le repas prévu pour lui, puis rejoint sa chambre avec un pack de bière et s'endort sur son lit, télévision allumée. Au milieu de la nuit, il se glisse entre les draps. À 7 heures, ils repartent. Au nord d'Orléans, alors que le bus suit une voiture tractant une remorque chargée d'un arbre, la voix de Colette Mercier reprend. « Vous êtes Combasseaux ?» Puis, « Ils ont tué vos bêtes ?» La voiture avec la remorque et l'arbre sont impossibles à doubler. L'attelage a déboîté de la bretelle d'accès devant l'autocar au moment où celui-ci arrivait à la hauteur de l'usine John Deere. Stéphane n'a eu que des tracteurs de cette marque. « Ils ont tué toutes vos bêtes ?» insiste Colette Mercier. Derrière, les bavardages des passagers cessent. Seul reste la voix de Colette Mercier. Il ne lève pas les yeux vers le rétroviseur. Il les garde sur les branches qui battent au-dessus de la plaque d'immatriculation de la remorque. Elle n'est pas du 45, le numéro du Loiret, qu'il traverse en ce moment, mais du 38, l'Isère. Il monte le volume de l'autoradio. C'est une chanson de Serge Gainsbourg, dont il se met à fredonner les paroles. « Café, que j'aime ta couleur, café ». Il chante encore à voix basse lorsqu'Émilie se glisse à sa droite, s'appuyant sur la planche devant la vitre verticale du pare-brise, regardant elle aussi l'arbre. « Vous la connaissez ?» demande-t-elle. « Elle vous voit toujours. Elle est pleine d'enthousiasme et veut bien faire. Elle réunit ses cheveux mi-blonds, mi-châtains en queue de cheval qui se dénoue progressivement au cours de la journée. » Depuis le départ, elle veille à éliminer toute source de disharmonie dans le bus, son bus. Cette appropriation du contenu de l'autocar irrite Stéphane. Depuis les années, il en a subi assez de ces buveuses de tisane. « La dame au fond, vous la connaissez ? » répète-t-elle. Il laisse passer un nouveau silence avant de répondre par une question. « Celle qui parle ? » ?»« La dame restée dans le bus pendant la tour Eiffel, oui. » Il tapote le cercle du volant. Il regrette l'époque de l'ébonite, sa sensation de sécheresse agréable sur les paumes, comme si les commandes des véhicules étaient alquées. « On ne va pas revenir là-dessus, Émilie. »« Il faudrait que vous lui parliez. Elle inquiète les autres. Elle, mais je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est votre travail, les clients, Émilie. Moi, je conduis. Elle parle de vous, vous le savez.
Il jette un regard en coin à Émilie. Elle commence à lui courir.
Je lui ai déjà dit, elle confond.
Et d'une voix très froide, Stéphane ajoute. On ne va pas faire toute la semaine avec ça.
Certes, il ment en prétendant ne pas connaître cette femme qui le harcèle. Et alors?
Certes, Colette Mercier a raison.
Et alors? Tout le monde a raison. Son propre mensonge est une forme de vérité.
C'est clair, il n'a jamais connu Philippe Mercier, il n'a jamais eu de troupeau, il n'a jamais été paysan.
Qu'on le laisse conduire.
Que chacun fasse ce pourquoi il est là, merde !